au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? Parce que c'est mieux qu'une seule fois. Allô, Mathieu, comment ça va?
Je vais très bien, lui-même.
Oui, oui, oui. On a chaud ces jours-ci. Hein. Ça va encore deux bonnes journées, surtout pour le sud du Québec et l'Ontario, bien que demain, ça va aller jusque dans la région de Québec, cet avis de chaleur accablante, on devrait dire. On parle de ressenti hein, de 40 à 42 degrés, là, selon où vous trouvez. Et comme je suis souvent rendu à cette température-là, le ressenti, que ça soit 30 ou 40, il n'y a plus de grande différence. Hein. On a chaud pareil. Et en plus de ça, hein, comme si les malheurs, ça vient jamais tout seul, bien, on nous dit qu'il y a un avis aussi de dans l'air, hein, un avis de fumée, un avis donc de qualité d'air qui est en vigueur presque partout au Québec et en Ontario, de même qu'en Saskatchewan, évidemment, au Manitoba, parce que, ben voilà, il y a des feux de forêt et puis on parle même d'évacuer là, des localités parce que les feux sont menaçants. Alors, puis on a appris ce matin que c'est Toronto qui est la deuxième ville la plus polluée au monde ces jours-ci, mais pff, fait chaud et l'air est irrespirable. J'avoue que ça piquait un peu le nez hein, et les yeux ce matin quand on est sorti de la maison. Et pourtant, il me semblait que c'était pas aussi évident. Alors, ailleurs au pays, que ce soit en Atlantique, que ce soit dans d'autres régions de l'Ontario ou du Québec, on reste quand même chaud, mais il n'y a pas d'avis de chaleur accablante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est moins chaud, mais il y a quand même de la fumée en Saskatchewan ou Manitoba. Et puis, c'est beau et chaud en Alberta et en Colombie-Britannique. Alors aujourd'hui, à l'émission, émission assez remplie, nous allons recevoir l'ancienne ministre, la politicienne Louise Beaudoin, qui a travaillé avec deux auteurs pour présenter ou faire un livre qui est un peu sa biographie, mais c'est fait sous forme d'entretien. C'est très intéressant à lire. Ça se lit très, très bien. Et moi, je lisais, puis en fait, j'entendais Mme Beaudoin parler parce que c'était, en fait, c'est elle qui répond aux questions. Les auteurs ont quand même pris le temps de s'assurer là, que tous les faits étaient vérifiés. C'est toujours un peu, hein, quand on va faire sa propre mémoire, des fois les dates et tout ça, alors ils ont tout vérifié. On va recevoir donc Mme Beaudoin à l'émission aujourd'hui. On va parler aussi du festival de films de genre qui s'appelle Fantasia, qui commence demain à Montréal. Et nous allons recevoir aujourd'hui notre chroniqueuse littéraire, Anne-Marie Aubin. Alors, c'est le 15 juillet aujourd'hui. Vous aimez ça? J'aime ça faire l'éphémérie de la journée. C'est le 196e jour de l'année. Il reste 169 jours. On a pas plus que la moitié de 2025 de fêtes déjà. Donc, on approche des fêtes, Mathieu.
Vous savez d'où ça vient, hein, le fait qu'on ait mis dans les éphémérides les jours qui restent avant Noël, c'était pour taquiner une collègue Josée.
Ah oui.
Et on continue encore. Ça fait toujours
plaisir.
C'est
plus fort que moi. J'avais un ami qui est décédé maintenant. J'avais beaucoup de plaisir, ce cher Mario Landerman. Et puis Mario, je pense qu'à tous les 25 du mois ou 24 du mois, je publiais sur ma page Facebook que c'était on est à tant de mois de Noël, alors il faut passer à nos cadeaux de Noël, mon cher Mario. Il adorait ça. Bon, aujourd'hui, je ne fais pas ça souvent, mais je vais vous parler du saint du jour. C'est Saint Bonaventure. J'ai pensé pour les gens de la Gaspésie et pour ceux qui travaillent à l'hôtel Bonaventure, à la place Bonaventure à Montréal, que ça leur ferait plaisir. C'est donc à l'honneur d'un franciscain du 13e siècle qui était un théologien et docteur de l'Église, qui est considéré comme l'un des plus grands esprits de son temps. Alors, bonne Saint-Bonaventure à ceux que ça intéresse. 1099, c'est la première croisade prise de Jérusalem par les croisés, marquant un tournant dans l'histoire des croisades et des relations entre chrétiens et musulmans au Moyen Âge. En France, en 1799, découverte de la pierre de Rosette par des soldats de l'armée de Napoléon en Égypte. Et puis, cette découverte majeure permet de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens et s'ouvrait la voie vers une meilleure compréhension de l'Égypte antique. Aux États-Unis, 1965, première mondiale du film « Les oiseaux » d'Alfred Hitchcock. C'est un chef-d'œuvre culte, ce film-là. Si vous n'avez pas vu, c'est encore d'actualité, c'est encore bon à voir. Et puis, pour d'autres créations culturelles, pour ceux que ça peut intéresser, qui aiment les jeux vidéo, 1983, la sortie du jeu Mario Bros. Au Japon, développé par Nintendo, mon Dieu, Mario et Luigi. Ta-da-ta-ta-ta-ta, hein, on connaît bien la petite musique, oui. Naissance célèbre, j'entends. C'est donc qu'il fait ça, micro fermé, hein?
Ben, vous étiez en train de parler, je pensais pas que vous alliez m'entendre.
Il faut avoir du plaisir à cette émission-là. C'est un plaisir d'être... Vous savez que faire de la radio, c'est un privilège, c'est un plaisir, c'est un honneur d'avoir un micro. Puis de temps en temps, il faut prendre le temps de rigoler un peu parce que, ah, oh, mon Dieu, que la vie pourrait être dure. Bien, là, on va retourner à des naissances célèbres. Rembrandt, en 1606. Et puis, l'acteur états-unien Thierry O'Quinn. Pour ceux qui ont aimé la série Lost, il jouait le rôle de John Locke. Moi, j'avoue que cette série-là, j'ai écouté, j'ai pas été capable de suivre parce que c'était un peu théorie du complot, un petit peu trop pour moi. Mais en tout cas, bon, y a des gens qui aiment ça et vous savez, ça prend de tout pour faire un monde. Puis si on se fiait qu'à mes goûts, il n'y aurait qu'une seule chaîne de télévision, ce serait peut-être vraiment plate pour les autres. Fait marquant aujourd'hui, décès de Rosalía de Castro, poétesse galicienne et figure de la Renaissance galicienne, qui était l'une des voix les plus importantes de la littérature en langue galicienne. Le décès aussi d'Anton Tchekhov, hein, qu'on a connu pour la Cerisée et Oncle Vania. Et puis c'est le décès de Laurence Tibbett, c'est un baryton américain, états-unien, qui a fait les joies du Metropolitan Opera. Citation du jour, « La sagesse commence dans l'émerveillement », dit Socrate. Moi, j'aimerais aussi souligner aujourd'hui que ce sont les funérailles ou la cérémonie funéraire nationale pour Serge Curie. Serge Curie qui est décédé à l'âge de 76 ans. Il faut le faire, le 24 juillet.
C'est 73 ou 76?
Là, vous me posez une question. Là, j'ai pas l'article devant moi, mais en tout cas, il me semble que c'est 76, il était un petit peu plus vieux que moi.
OK.
Ouais, pas tant que ça, mais quand même. Alors, moi, j'ai connu en 74, j'avais 13 ans, c'était la sortie de, pour un instant, de... Ah, t'es en train de vérifier?
Ouais.
Ouais. C'est fou, j'ai l'article, je peux pas aller à mon ordinateur parce que je vais être hors du micro, mais on va se corriger après la chanson. Alors, c'était donc en 1974. Alors, imaginez-vous, j'étais... j'avais 12 ans, même pas encore 13 ans quand c'est sorti. J'ai eu 13 ans en 74. Mon Dieu, qu'on rajeunit pas. La chanson pour un instant, c'est un grand souvenir de jeunesse pour moi. Puis je pense que c'est... On va l'écouter, puis on va revenir avec le vrai âge de Serge Curie.
Pour un instant, j'ai oublié mon nom. Ça m'a permis enfin pour un instant.
Harmonium pour un instant.
Bon, puis on a eu le temps de vérifier pour se corriger. C'est bel et bien 73 ans. Alors, je l'avais vieilli de 3 ans. Bon, ça arrive. De toute façon, c'est pas, je pourrais dire c'est l'âge, mais malheureusement, j'ai toujours été mêlé dans mes chiffres. Alors, c'est pas demain que ça va s'améliorer. Parlant de chiffres, l'inflation remonte à 1,9% au mois de juin. Le taux d'inflation, donc l'indice des prix à la consommation, s'est établi à 1,9% en juin au Canada par rapport à la progression de 1,7% enregistrée en mai. Selon Statistique Canada, la croissance de l'inflation globale s'est accélérée en juin alors que les prix de l'essence ont diminué dans une moindre mesure en juin par rapport à mai. De plus, bien, la croissance la plus marquée des prix de certains, ce sont des certains biens durables, donc on parle des véhicules, des meubles, ça a exercé la pression à la hausse sur les taux sur le taux d'inflation. Au Québec, bien, le taux, l'inflation annuelle s'est établie à 2,2% le mois dernier par rapport à avoir été à 1,7% en mai. Alors, évidemment, tout ça, c'est à suivre. On va savoir si le taux d'escompte de la Banque du Canada va continuer sa baisse. Bon, nous, on continue avec la pluie. Ben oui, on va encore parler du temps qu'il fait. Cette fois-ci, c'est pour les personnes, en fait, les producteurs agricoles du Québec. L'épisode de forte précipitation de dimanche, ça a suscité un déluge d'inquiétudes chez les agriculteurs dont les terres ont été inondées. 7 travailleurs agricoles guatémaltèques piochent et creusent des rigoles dans un champ de betteraves de la Naudière. C'est un texte, donc, de la presse ce matin. Travaille rapidement et sans relâche depuis des heures pour que l'eau tombée durant les pluies diluviennes de dimanche s'évacue le plus rapidement possible. Le producteur maraîcher Martin Gariépy, qui est âgé de 52 ans, cultive des betteraves, des carottes et du maïs grain sur 225 hectares. Il travaille à la ferme fondée par son grand-père depuis l'âge de 16 ans. En l'espace de 2h30 dimanche, près de 110 mm de pluie se sont battus sur ses terres, selon les mesures enregistrées par son pluviomètre. Pluviomètre, oui, c'est ça. À titre comparatif, l'an dernier, c'était 160 mm qui étaient tombés, mais en l'espace de 18 heures, on se rappelle, c'était lors des restes de l'ouragan Debbie. Eh bien, le ruisseau des Anges qui longe le village n'a pas pu absorber toute l'eau qui s'écoulait des champs et certains fossés ont débordé dans les zones cultivées. C'est la quatrième année de suite que le producteur subit des pertes en raison des pluies diluviennes. En 2023, le Québec a connu son mois de juillet le plus pluvieux jamais enregistré. Puis en août 2024, c'est la tempête Debbie qui a causé des dommages importants. M. Gariépy estime que les pertes dans un seul de ses champs de betteraves de 5 hectares à entre 30 et 40 %, ce qui représente entre 100 000 et 150 000 $ de pertes. Dans un autre village un petit peu plus loin, la famille Allard-Gautier, qui cultive des pommes de terre sur 530 acres, a aussi fait creuser des rigoles à la pelle dans les champs. Selon les champs, entre 47 et 110 mm de pluie sont tombés dimanche. On est là-dessus depuis 8 heures ce matin. On vide les champs le plus possible pour essayer d'aérer ça, raconte Sabrina Gauthier. Les précipitations se sont ajoutées à celles tombées plus tôt cette semaine. Lors du passage du journaliste de la presse, des algues avaient commencé à fleurir dans l'eau stagnante accumulée entre les rangs depuis quelques jours. Un mélange d'algues et de pollen avait donné à l'eau une teinte de vert fluo. Pour la présidente de l'Association des maraîchers du Québec, Catherine Lefebvre, ce cas illustre un enjeu beaucoup plus généralisé. La plus grosse problématique, dit-elle, c'est l'entretien des cours d'eau qui n'est pas adéquat par les gouvernements et les municipalités. Au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, on admet que l'entretien des cours d'eau en milieu agricole est un enjeu complexe. Les événements météorologiques extrêmes des dernières années ont mis en lumière la nécessité d'agir. C'est pourquoi un comité a été mis en place au ministère de l'Environnement pour clarifier les rôles et responsabilités de chacun, a indiqué l'attachée de presse du cabinet du ministre de l'Environnement, Tania Michaud. Les travaux débuteront dans les prochaines semaines en collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec et l'Union des producteurs agricoles. On va juste discuter de comment on va gérer le problème. Bon Dieu, ça avance pas vite. On retourne en musique.
Ben, ça va être le mi de l'année!
Quand dans ma tête et dans mon cœur tout s'accordera enfin, je serai bien. Quand tous mes
mes gestes et tous mes mots s'aligneront ensemble soudain. Je serai bien.
Une nouveauté d'Alex Pick, c'était « Je serai bien ».
Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas parlé au micro du président états-unien Donald Trump. Ben, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Alors, il donne 50 jours à la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est quand même 50 jours, c'est un bon délai. Le président états-unien Donald Trump, dont la patience vis-à-vis son homologue russe Vladimir Poutine semble être à bout, et a donné à la Russie 50 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Sous peine de sanctions sévères annoncées et annoncé le réarmement massif de Kiev à travers l'OTAN. Alors, le président ukrainien Vladimir Zelensky a salué cette annonce, disant reconnaissant envers son homologue des États-Unis pour sa volonté de soutenir la protection des vies ukrainiennes. Donald Trump s'est dit déçu par le président russe à l'origine de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. « Je pensais que nous avions un accord il y a 2 mois, mais ça semble pas se concrétiser », a-t-il dit à la Maison-Blanche, aux côtés du secrétaire d'État de l'OTAN, Mark Rutte. Par conséquent, nous allons mettre en place des droits de douane secondaires, c'est-à-dire contre les alliés de Moscou. Si nous n'avons pas un accord d'ici 50 jours, c'est très simple, les droits de douane seront à 100%, et c'est comme ça, a-t-il ajouté. L'an dernier, les principaux partenaires commerciaux de la Russie étaient la Chine pour quelque 34% des échanges, ainsi que dans une moindre mesure, l'Inde, la Turquie et le Bélarus, selon les douanes russes. À Bruxelles, le chef de la diplomatie européenne a jugé que le délai de 50 jours représentait une durée très longue quand des civils innocents se meurent tous les jours. Alors, à suivre ce dossier-là, même les gens qui vont acheter, en fait, les pays qui vont acheter de la Russie seraient pénalisés dans ce genre d'accord ou de frais de douane. Et puis, on va parler du Canada maintenant, parce que Donald Trump affirme que la lettre qu'il a envoyée plus tôt cette semaine au premier ministre canadien était un accord avec le Canada, un accord économique, de commerce entre les deux pays. Alors, le président états-unien Donald Trump a déclaré que les lettres qu'il a envoyées, donc, que ce soit à Mark Carney, premier ministre du Canada, et à d'autres dirigeants concernant les nouveaux droits de douane, conçu des accords, tandis que M. Carney se prépare à rencontrer son cabinet aujourd'hui en réaction aux nouveaux droits de douane sur les produits canadiens annoncés par le président Trump la semaine dernière. Donald Trump semble perdre patience face aux efforts de son administration pour conclure des accords commerciaux avec des nations du monde entier. Le président a envoyé des lettres à ses partenaires commerciaux dans le Canada menaçant d'imposer des droits de douane plus élevés, donc à compter du 1er août. Et puis, voici comment ça s'est décidé. Il regardait à la télévision une émission dans laquelle on disait « Bien, quand va-t-il conclure l'accord? » Nos accords sont déjà conclus. Les lettres sont les accords à lancer Donald Trump lors de la réunion, d'une réunion dans le bureau Oval avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Alors, il n'y a pas d'accord à conclure, a poursuivi le gouvernement américain. Ils aimeraient conclure un autre type d'accord. Bien, nous sommes ouverts à la discussion. La lettre envoyée au premier ministre du Canada la semaine dernière indiquait que le Canada serait frappé de droits de douane de 35 %, mais la Maison-Blanche a ensuite précisé que ces droits ne concernaient pas les marchandises conformes à l'accord Canada-États-Unis-Mexique, l'ASUM, qu'on connaît bien, sur le commerce. Samedi, Donald Trump a publié sur ses réseaux sociaux la lettre adressée à la présidente du Mexique, annonçant que le Mexique serait frappé de droits de douane de 30 %. Des droits de douane de 30 % ont également été annoncés pour l'Union européenne. Et pour le Canada, bien, c'est 35 %. Christopher Sands, directeur du Centre d'études canadiennes de l'Université John Hopkins, a expliqué que le Canada et le Mexique sont les deux principaux partenaires commerciaux des États-Unis et que le Canada est également un partenaire en matière de sécurité nationale. Maintenant, dit-il, le Canada est frappé d'un droit de douane de 35 % tandis que le Mexique n'en subit que 30 %. M. Carney a fait des efforts supplémentaires pour Trump jusqu'à présent, mais il pourrait ne pas bénéficier du soutien public canadien nécessaire pour poursuivre longtemps dans cette voie. Là, les gens commencent à dire qu'il serait peut-être temps de frapper en retour. Alors, à suivre ce dossier aujourd'hui, réunion du cabinet, en fait, du Conseil des ministres de Mark Carney à Ottawa, pour discuter des nouvelles menaces de droits de frais de douane du gouvernement de Donald Trump aux États-Unis.
chanson Le Soleil de Cochin Moon.
J'ai le temps de vous parler que le nez pourrait aider à déterminer si on a certaines maladies, dont la maladie de Parkinson et celle d'Alzheimer. Semble-t-il que dans ces deux maladies-là, l'odorat, le goût, donc il vient aussi avec le nez, l'odorat, le goût, est perdu pour les personnes qui souffrent de ces deux maladies-là et que souvent, ça se présente comme 10 ans d'avance. Alors, si on peut déterminer quelqu'un a une perte d'odorat, encore faut-il aussi déterminer que cette perte n'est pas due à autre chose. Vous savez que la COVID vous fait perdre également l'odorat. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a des tests qui se préparent et peut-être qu'on va pouvoir déterminer plus tôt si quelqu'un est atteint de ces deux maladies, ce qui pourrait donc aider à accélérer les traitements. Je vous rappelle donc du côté de la météo aujourd'hui et demain, hein, on s'en va vers une vague de chaleur, alors des avertissements de chaleur accablante, pour pas dire de canicule qui s'en vient. On peut prévoir dans le sud du Québec et de l'Ontario des températures ressenties qui pourraient aller jusqu'à 42 degrés. Mais comme je le dis, j'étais en Europe là, il y a quelques semaines et puis on me parlait de ressenties de 45. Rendu à ce niveau-là, il n'y en a pas de différence entre 30 et 15, et 30 et 45. C'est à peu près la même chose. On a chaud puis on sue. En même temps, il y a un avis aussi de qualité d'air important à cause des feux de forêt. Ça devrait se dissiper dans les prochaines heures. Ça se pourrait qu'on soit mieux ce soir. Et dans le reste du Canada, c'est chaud quand même partout et beau et ensoleillé, mais moins humide. Après la pause, on va parler du festival de films de genre qui s'appelle Fantasia, qui commence demain à Montréal. Et on va aussi recevoir la politicienne Louise Beaudoin. Et on termine tout ça avec notre chronique littéraire. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Le Festival international de films Fantasia célèbre sa 29e édition du 16 juillet au 3 août avec une programmation que son organisation dit électrisante. C'est plus de 120 longs-métrages et 200 courts-métrages qui seront présentés cette année. Projections, ateliers, événements de lancement seront aussi offerts aux festivaliers, donc beaucoup d'événements gratuits. Pour en discuter, on reçoit Tania Morissette, directrice adjointe de la programmation des titres québécois. Alors, bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup.
Commençons par le classique. C'est quoi le Festival Fantasia?
Le Festival Fantasia, c'est un festival de films de genre. Souvent, c'est là que les gens accrochent un peu. Le genre, c'est plus difficile à définir. Ouais. Mais pour nous, tu sais, c'est le cinéma de l'imaginaire. C'est tout ce qui sort un peu de l'ordinaire. Donc, on a des films d'action, des films d'arts martiaux, de science-fiction, des comédies, des films fantastiques. Il y en a vraiment pour tous les goûts, là, autant des films de studio américains que des petits films indépendants qui vont être assez difficiles à trouver peut-être des fois après le festival. Là.
Alors, quand on dit genre, on peut parler un peu comme la littérature, de l'imaginaire, le genre, c'est-à-dire, comme on vous a parlé de fantastique, ça peut être des trucs d'horreur, comme ça peut être aussi des films d'auteur, ça peut être à peu près de tout. Là.
Oui, c'est certain que, tu sais, on peut avoir aussi une programmation un peu plus généraliste, particulièrement au niveau des films québécois.
Ouais.
Aussi des films asiatiques, on a quand même un tiers d'une programmation,
qui vient
des pays asiatiques. Mais c'est certain que peu importe ce qu'on aime, on en trouve à Fantasia.
Alors, pourquoi Fantasia? Pourquoi ce titre?
En fait, quand le festival a commencé en 1996, c'était pour les films fantastiques et les films asiatiques.
Ah.
Donc, il y avait vraiment un gros focus sur l'Asie dans le temps, parce que ces films-là étaient pratiquement impossibles à voir ici. Maintenant, on couvre vraiment la planète au complet, mais c'est ça l'origine du nom.
Alors, parlons de la 29e édition. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, 125 longs-métrages, 200 courts-métrages. Je n'ai pas le temps de tout faire la liste pendant cet entretien. Mais je vais quand même remarquer que vous commencez avec Eddington. Je sais que ce n'est pas dans votre programmation, mais est-ce qu'on peut dire un petit mot sur ce film qui va ouvrir?
Oui, bien nous, on est vraiment heureux, en fait, parce qu'on a toujours aimé Ari Aster. Tu sais, on suit sa carrière depuis le début. Puis c'est la première fois qu'il y a un film qui sort, qui fonctionne avec nos dates. Donc, dès qu'on a su que ça allait être une possibilité, on était super contents. Puis c'est le fun aussi parce que, tu sais, on le connaît beaucoup pour ses films d'horreur, mais cette fois-ci, c'est un western, en fait, qui, tu sais, retraite la COVID, donc de 2020, qu'on a tous vécu. Mais c'est un film vraiment original, donc on est vraiment super contents de le présenter.
Donc, des cowboys masqués, peut-être, hein, avec Joaquin Phoenix, j'ai vu.
Oui, Pedro Pascal aussi.
Oui. C'est bon. Puis l'autre film, encore une fois, c'est un film qui n'est pas de votre programmation, mais quand même fixed. C'est un film, un autre film de genre qui est signé par Gandhi Tatakovsky.
Oui, vraiment une légende dans le cinéma d'animation. Donc, Fixed est aussi un film d'animation, mais pour adultes. Donc, c'est super intéressant. Puis pour nous, mais on a une grosse section aussi là, de, d'animé puis des films d'animation au festival. On va donner un prix de carrière justement à Gendy pour tout le travail qu'il a fait. Donc, on va y remettre à l'occasion de la clôture du festival.
Alors là, je vous pose, c'est toujours la question la plus difficile à poser à quelqu'un qui organise un festival. Est-ce qu'il y a des titres à souligner? Moi, j'avais vu les Schtroumpfs. Évidemment. Mais est-ce qu'il y a d'autres titres à souligner?
Oui, bien, on a une grosse programmation québécoise cette année. Je pense qu'on a une quinzaine de longs-métrages, donc c'est vraiment énorme. Moi, il y a Anakiri, que j'ai beaucoup aimé, un nouveau film de Francis Bordelot,
oui.
Avec une distribution là, d'acteurs vraiment incroyable, comme Catherine Brunet, Charlotte Aubin, Caroline Néron, qui est dans le film. Ça va vraiment être une grosse première. Moi, je dirais que ça, c'est à ne pas manquer.
Ouais.
On a André Forcier qui revient aussi, qui signe un film avec Jean-Marc Roy. André Forcier avait réalisé À Babouiner l'année dernière, qui était notre film de clôture.
Ouais.
Et là, ils reviennent avec un mélange de documentaire et de fiction sur l'historique de Ville-Jacques-Cartier. Donc, le film s'appelle Ville-Jacques-Carton. Moi, c'est un film qui m'a touchée beaucoup, tu sais, qui parle de notre histoire. Je pense que c'est très important à voir en salle. Et on joue le film le 19, c'est l'anniversaire d'André Forcier en même temps.
Bon, il va être très heureux de ça. Beaucoup de prix cette année, je vois ça. Donc, le prix du pionnier canadien, beaucoup d'ateliers et de discussions.
Oui.
Parlons-donc un petit peu de ce qu'il y a à retenir là-dedans.
Bien, le plus gros, je vous dirais, c'est Danny Elfman, qui a fait la musique pour plein de films comme Mission Impossible, pratiquement tous les films de Tim Burton. Il a fait la musique d'un court-métrage qui s'appelle Bullet Time. Et donc, on a comme... Ça s'est fait un peu organiquement que Elfman vienne au festival. Nous, on va représenter son film The Nightmare Before Christmas et on va faire aussi une classe de maître avec lui. Donc, ça va vraiment être une conférence. On fait ça avec pas mal tous les récipiendaires de prix. Donc, on va avoir Lloyd Kaufman aussi, à qui on va donner un prix. Au niveau plus local, on donne un prix à Georges Mialka, qui est aussi un habitué du festival, qui vient nous voir pratiquement à chaque année, même quand on ne présente pas de ses films. Donc, on va avoir Hostile Takeover, c'est là qu'on va y remettre le prix, mais on va aussi avoir une classe de maître avec lui. Puis, je tiens à noter aussi que toutes nos activités sont gratuites pour le public.
Alors, mais toutes les projections de films aussi ou certaines?
Non, pas les projections de films, mais toutes les activités, donc les classes de maître, les conférences, les tables rondes, tout ça, c'est gratuit.
Ça se déroule assez dans un endroit assez accessible. On parle du collège, de l'Université Concordia, si j'ai bien vu.
Oui, ouais. Donc on a les deux salles à l'Université Concordia, puis on travaille aussi avec le cinéma du musée, donc une minute de marche plus loin.
C'est à côté, oui. Et c'est donc des salles qui sont faciles d'accès pour les gens qui vont en transport en commun et aussi des salles accessibles pour ceux et celles qui se déplacent avec des soucis de mobilité, là, parce que je connais quand même les salles pour y avoir été souvent. Donc, puis il y a d'autres films à souligner. Je sais qu'on a, je sais qu'il y en a plusieurs. On a parlé de 200, mais on a du temps pour en parler. Alors, vos, en fait, tes coups de cœur.
Ben, là, la programmation est déjà sold out, malheureusement, mais je veux quand même le mentionner. C'est La mort n'existe pas de Félix Dufour-Lapeyrière, qui a fait sa première mondiale à Cannes. Film d'animation québécois qui a pris 10 ans à faire. C'est incroyable. Si vous avez la chance d'aller le voir au grand écran, c'est vraiment quelque chose à voir.
Souvent, ces films-là ont de la difficulté à être vus sur les grands écrans. C'est genre d'événements comme le vôtre qu'on peut les voir. Est-ce qu'il y a des chances que là, vous dites que vous êtes tout est sold out, donc il n'y a plus de billets disponibles?
Non, mais en fait, nous, on a des rush lines qu'on appelle. Donc, c'est possible de se présenter à la projection. Puis s'il y a des gens qui ne sont pas venus au film, à ce moment-là, on va pouvoir vendre des billets de dernière minute. Donc, il y a toujours une chance de voir les films quand même.
Puis autrement, tous les autres événements, les classes de maîtres, les conférences, c'est gratuit.
C'est gratuit, mais il faut arriver tôt.
Ah oui? Parce qu'il y a des files d'attente et tout ça?
Oui, les files commencent au minimum là, une heure à l'avance pour ces événements-là.
OK. Et les gens qui manquent tout ça, est-ce qu'il y a des chances de voir ou il faut qu'ils suivent sur les réseaux sociaux, voir ce qui se passe sur les internets?
Bien, c'est certain que nous, tu sais, il faudrait nous suivre vous pouvez aller voir sur de la programmation sur notre site web, fantasiafestival.com. On est sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, X... Donc, on est quand même facile à trouver, mais c'est certain qu'on présente beaucoup de titres qui vont être assez difficiles à trouver après. Oui. Donc, on vous suggère d'en profiter pendant qu'ils sont sur les écrans à Montréal.
D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour ce festival, une autre chose qu'on ne doit pas manquer, qui aurait des billets pour ceux qui veulent le voir ou qui sont disponibles?
Oui, bien, je n'ai pas mentionné beaucoup de films d'horreur. Je vais en mentionner un.
Oui.
On présente Good Boy, qui a l'air super intéressant. Je ne l'ai pas vu encore, mais c'est un film d'horreur, donc un home invasion, mais de la perspective du chien. Donc, c'est un film qui a vraiment beaucoup de buzz. Moi, c'est certain que je vais être là. Donc, je dirais que ça aussi, c'est un film à ne pas manquer.
Bien, merci beaucoup encore, Tania Morissette, d'être passée à l'émission aujourd'hui.
Merci.
Merci.
La chanson « Rouler en nous », c'est une chanson de Bobby Bazini.
Louise Beaudoin a marqué l'histoire du Québec. Fervente souverainiste, elle a été des grands débats politiques du début du Parti québécois jusqu'à la fin des années 2010, notamment sur la place du Québec sur la scène internationale, la protection de la langue et de la culture québécoise et bien entendu sur les débats référendaires. Directrice de cabinet, déléguée générale du Québec à Paris, ministre des Relations internationales, ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française et une deuxième fois ministre des Relations internationales et de la Francophonie, sont des postes qu'elle a occupés en politique provinciale. En plus de ça, en tant qu'analyste dans les médias, sa carrière dans le milieu universitaire, bref, elle a écrit plusieurs ouvrages. Et on vient de publier sa biographie. Eh bien, ce n'est pas une autobiographie, ce n'est pas non plus une biographie formelle. C'est plutôt une longue entrevue ou une longue série d'entretiens entre deux auteurs et Mme Beaudoin, intitulée « Entretien aux éditions Boréal ». On reçoit Mme Beaudoin par visioconférence. Bonjour, Mme Beaudoin.
Bonjour, oui, je suis à la campagne, alors je m'excuse si l'image n'est pas très bonne.
Ben, c'est pas grave, on fait de la radio, puis on ne met pas l'image en onde, ça va, puis le plaisir pour moi, c'est de vous voir, parce que c'est toujours plus facile de faire une entrevue quand on a la personne devant soi. Madame Beaudoin, moi, j'ai lu ce livre pendant mes vacances, j'ai beaucoup aimé. D'abord, je vais vous poser la question, comment allez-vous?
Je vais très bien, ouais. Je vous remercie. Oui, je suis contente de venir me reposer un peu dans Charlevoix, là, ouais. Parce que l'année, comme vous avez dit, là, j'ai lancé ce livre-là, la promo, enfin, etc. Ça a été une année quand même assez mouvementée, mais je suis contente du résultat, effectivement.
Maman m'avait proposé le livre, justement, avant les vacances, puis je je partais en vacances, je me suis dit, ah, peut-être que je vais me faire plaisir pendant mon remplacement d'été. Je vais interviewer Mme Beaudoin. Je vous remercie d'avoir été là avec nous. Pourquoi avoir choisi ce type de biographie au lieu d'avoir peut-être un auteur ou une autrice qui fait la biographie? Vous avez donc participé avec deux auteurs et c'est comme une entrevue qu'on fait avec vous, qui est d'ailleurs très intéressant comme style à lire. Ça rend la lecture. Moi, je vous entendais parler pendant que je lisais le livre.
J'ai choisi ça parce que c'est une collection hein, chez Boréal, chez l'éditeur Boréal, qui s'appelle Trajectoire. Et ce sont en effet des universitaires. Le directeur de la collection, c'est Alain G. Gagnon, qui est professeur à l'UQAM. Et il y a beaucoup de monde qui l'avait fait, dont Lise Bissonnette, la dernière, c'était Lise Bissonnette, Denis Vaugeois, des écrivains comme André Major et tout. Disons que cette formule-là me convenait.
Oui.
Et, effectivement, quand on me l'a proposé, j'ai dit ça me convient mieux.
Oui. Allons-y dans le contenu. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, longue carrière politique, à une époque où c'était particulièrement difficile, on va rentrer là-dedans, pour les femmes. Hein. Je dis pas que c'est facile maintenant, mais c'était encore pas mal plus difficile à l'époque. Comment vous avez combattu le sexisme omniprésent en politique à cette époque-là, qui est encore maintenant, mais à l'époque, je pense que c'était encore pire. Hein?
C'est-à-dire que c'était, il n'y avait pas beaucoup de modèles là, hein, mm-hmm. pour les femmes de ma génération. Disons qu'il y avait eu Thérèse Cazeneret, on peut dire Solange, Chapuis Roland, et puis bien sûr pour nous, les indépendantistes, Lise Payette. Mais elle avait déjà écrit son livre justement qui disait « Le pouvoir ne connaît pas » étant donné qu'elle était pendant un premier temps dans le cabinet de M. Lévesque, la seule femme, alors c'était pas, bien sûr, pas évident. Mais moi, en 94, ça m'a pris beaucoup de temps à me faire élire, me présenter, c'était la quatrième fois et qui a été la bonne, ce qui prouve une certaine détermination, disons, de ma part, me faire battre trois fois, puis finalement me faire élire en 94 avec M. Parizeau. Et puis M. Parizeau avait décidé qu'il y aurait un comité des priorités paritaire. Et ça a été, M. Charest ensuite a rendu le Conseil des ministres paritaire, puis là, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on essaie d'en faire dans une zone, en tout cas des conseils des ministres, dans une zone paritaire. Mais M. Parizeau était le premier qui très volontairement a décidé d'avoir un comité des priorités, qui est le comité le plus important, au sein de tous les comités du Conseil des ministres. Alors, Pauline Marois, Louise Arel et moi avons donc été les heureuses élues. Et puis, ça a été ensemble, en quelque sorte, c'est ça que je veux dire. Donc, parce qu'on était toutes les trois dans ce comité des priorités. On s'est retrouvés ensuite au comité référendaire, là, qui était suprêmement important en 95. Ça a été quelque chose qu'on a fait collectivement, toutes les trois.
D'accord.
Et ça a rendu, ce que je veux dire, les choses plus faciles.
C'est ça a rendu les choses plus faciles. C'était pas évident, mais c'était un petit peu plus facile. Mais on voit quand même dans les entretiens que vous avez eu à souvent mettre votre pied à terre, puis...
Faut pas s'en laisser imposer, tu sais, c'est fait. Alors, donc, mais toutes les trois, on était de la même génération, on avait vécu justement les mêmes expériences. Pauline Marois était à Jésus-Marie, au collège Jésus-Marie en même temps que moi, 2 ans après moi, là, mais mm-hmm. un peu plus jeune. Mais puis Louise était à Montréal. Donc, on avait vécu les mêmes choses, et puis ça nous rapprochait beaucoup. Et donc, à trois, on faisait plus, je dirais, le poids pour s'imposer.
J'aimerais, vous avez parlé donc de prendre votre place, mais vous avez aussi fait beaucoup d'efforts pour faire une place au Québec sur la scène internationale. Mais ça, vous avez fait ça même avant d'être élu, vous étiez très, très impliqué. Pourquoi c'est important pour vous de faire cette place au Québec au niveau international?
Eh bien, parce que, justement, moi, je veux dire, étant indépendantiste, je veux pas que le Québec soit trop provincialiste, mm-hmm. hein, trop provincialiste, parce que c'est ça que ça veut dire, être une province du Canada, la seule qui est majoritairement francophone. Alors moi, je me suis dit, il faut que cette ouverture sur le monde, pour nous, se décline en français. Pour ça, il faut des alliances francophones. La première, elle est bilatérale avec la France. Ça nous semblait une évidence depuis que le général de Gaulle est devenu en 1967. Les premières ententes internationales que le Québec a signées, il les a signées avec la France. La première délégation générale qui a existé et qui est la seule encore à avoir un statut diplomatique complet, c'est celle de Paris. Toujours par la volonté du général de Gaulle, mais ça existe encore aujourd'hui, c'est encore très, très utile. Alors, moi, je pensais que si on voulait décliner la mondialisation autrement que par une seule langue, l'anglais, par une seule culture, celle de l'Empire américain, eh bien, notre avenir en français était dans la francophonie. Alors, donc, pour moi, ça a été la première raison. Et la deuxième, c'est que dès 80, M. Lévesque a compris que la reconnaissance internationale, c'est pas suffisant de voter oui à un référendum pour être reconnu sur la scène internationale. Il faut qu'il y ait des pays qui se manifestent et qui fassent en sorte qu'on puisse adhérer aux Nations Unies et qu'on puisse exister dans le monde. Alors, c'est la reconnaissance des autres. Et là aussi, ben, il fallait commencer par les pays francophones, d'abord par la France. Voilà, c'est les deux raisons.
Oui, et puis ça vous a amené à faire face à des gens pas toujours très faciles de l'autre côté en France. Puis je vais vous parler de François Mitterrand, qui a été président de la France de 80 à 95. J'ai trouvé ça savoureux de lire cette partie-là de votre livre. Vraiment, c'était intéressant. Vous avez réussi à quand même l'amadouer, c'était pas évident. Parle-nous un petit peu de ça. Je pense que je vous laisse en parler de comment ça s'est passé un petit peu.
Ben, c'est-à-dire que moi, j'avais eu quand même la très bonne idée avec l'accord de M. Lévesque. En 72, on a fait une première 72, là. Je veux dire, ça se prépare de longue
Oui.
date, là. C'est pas vrai qu'on débarque du jour au lendemain. Et puis, qu'avec le président de la France, qui est déjà, disons, pas très, dans son cas à lui, c'était pas comme le général de Gaulle, c'était quand même le principal adversaire du général de Gaulle, François Mitterrand, de gauche, donc, président du Parti socialiste. Alors, donc, en 72, avec M. Lévesque, on a fait une première mission en France, et puis avec Bernard Landry. Et donc, on a rencontré François Mitterrand, qui était évidemment pas président à ce moment-là, mais qui était premier secrétaire du Parti socialiste. Ça s'est très mal passé. Monsieur Lévesque, et lui, ça n'a pas cliqué autant humainement. Monsieur Lévesque s'est bien entendu à droite avec beaucoup de monde, puis à gauche avec beaucoup de monde. Mais François Mitterrand, ça n'a jamais, jamais, jamais cliqué. Alors, c'est ça qui a rendu notre tâche difficile. Mais quand Mitterrand a été élu en 81, on le connaissait quand même très bien. Et moi, je passais beaucoup de temps en France. Et puis, disons que personnellement, le rapport entre le Parti québécois et le Parti socialiste, disons que c'est un peu ma responsabilité comme militante, comme présidente de la région de Québec, comme alors M. Lévesque m'avait comme adoubé pour que je m'occupe des relations. Donc, je vais dire à M. Lévesque, moi, ça m'intéresse davantage d'avoir l'accord du Parti socialiste, parce que le gouvernement du Parti québécois, dès 76, il fallait qu'il s'occupe du gouvernement qui était en place en France, c'était un gouvernement de droite, un gouvernement centriste de droite. Alors donc, ça m'a permis d'avoir tous ces contacts avec la gauche. Et quand est venu le moment fatidique que je raconte dans mon livre, c'est que M. Parizeau voulait que François Mitterrand lui donne sa parole, que si, puis là, on était près du référendum, puis là, on pensait gagner en 80, on n'était pas trop sûr, mais en 95, oui, M. Parizeau était le premier qui en était convaincu. Mais M. Parizeau m'a dit, il faut que je rencontre François Mitterrand. J'y suis allée avec lui et Jean Royer. Et puis là, ben, après une rencontre rocambolesque, dans tous les sens du terme, finalement, le président Mitterrand a dit quelque chose comme, oui, au nom de l'histoire, finalement, je n'ai pas le choix. J'aurai pas le choix. Je n'aurai pas le choix.
C'est ça.
Alors, M. Parizeau a gagné son pari. C'est formidable, ça. Mais c'est vrai que ça a été compliqué parce que c'est M. Bourassa qui était au pouvoir. Il y avait un délégué général qui était donc libéral, fédéraliste et tout. On ne voulait pas qu'il assiste à la rencontre. On a dû le faire sortir parce qu'il ne voulait pas sortir de la rencontre qui devait être en tête à tête entre François Mitterrand et M. Parizeau. M. Parizeau, avec raison, était convaincu que si il y avait quelqu'un d'autre dans surtout un adversaire politique du Parti québécois, que jamais François Mitterrand lui dirait les choses que M. Parizeau voulait entendre, mais il pensait pouvoir les entendre s'ils étaient en tête à tête, les yeux dans les yeux. Voilà.
Voilà. Il y a quand même eu deux référendums, mais je sais que je parle à une femme convaincue du besoin de la souveraineté du Québec, mais quand même deux référendums, deux fois non. Surtout la deuxième fois, je pense que ça a été encore plus difficile. Comment avez-vous vécu ça?
Ben, oui, c'est sûr que le premier référendum, comme vous dites, bon, ben, surtout que M. Lévesque nous avait dit ce soir-là, si je vous comprends bien, si je vous ai bien compris, vous me dites à la prochaine. Bon, alors quand la prochaine fois est arrivée, 15 ans plus tard, là, on était prêts, quoi. On était prêts. M. Parizeau avait pris toutes les dispositions, à la fois internationales, mais financières aussi. Mais bon, et c'est sûr que là, il y a eu comme un choc terrible. Bon. Et je dis, moi, bon, ben, malgré toutes les magouilles d'Ottawa, là, qui sont évidentes, surtout sur le plan, ils n'ont pas respecté les lois référendaires, sur le plan budgétaire, entre autres. Je veux dire, il y a eu de l'argent qui a ruisselé. Puis il y a eu le Lovin, c'est la journée, vous rappelez-vous, 2 jours avant le référendum, mais c'est la fois depuis 1867 qu'ils nous ont dit qu'ils nous aimaient. Ça a duré 24 heures, le temps que le référendum soit passé. Puis depuis ce temps-là, on n'a plus jamais entendu parler. Alors, mais moi, je le dis, je termine sur une note positive, d'espoir dans mon livre, parce qu'on a réussi une chose. Souvent, on a dit c'est les baby boomers, ça, l'indépendance, le Parti québécois, c'est la question d'une génération, mais c'est pas vrai. Le flambeau a été transmis, ça a été compliqué, ça a pris du temps, mais là, c'est la bonne là, avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc,
Vous avez espoir. Oui.
voilà.
Il nous reste 3 minutes et j'aimerais vraiment, puis je vais pas, on va peut-être pas autant parler de votre travail d'arrache-pied pour la culture et la langue française et surtout la construction de la grande bibliothèque. Mais je pense que sur le plan personnel, il y a quelque chose que je trouve très important à mentionner. Vous avez perdu votre conjoint en 2018 d'un cancer et ça mettait en lumière tout le dossier hein, de l'aide médicale à mourir. Sans vouloir gratter une plaie qui est quand même sensible pour vous, comment ça s'est passé tout ça et comment maintenant vous voyez ça?
Ben, à l'époque, en 2018, c'était au CHUM, c'était encore compliqué parce qu'il n'y avait pas tant de médecins, si vous voulez, sur place qui étaient disponibles, d'accord, pour l'aide médicale à mourir. Et donc, et là, en tout cas, c'est une histoire compliquée, en effet. Mais finalement, ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu le temps d'attendre l'aide médicale à mourir, là, parce que c'était la fin de semaine, et puis en tout cas, bon.
Il avait beaucoup souffert, c'est ça que je voulais
Ah,
indiquer.
ben, il a
Oui.
beaucoup souffert. Ben oui, parce que vous savez, même des doses de morphine ou de fentanyl, quand vous avez un cancer, c'est répandu aux os, hein,
Ah,
aux os.
ouais.
C'est connu, c'est extrêmement souffrant. Alors, mais finalement, je veux dire, au CHUM, ils m'ont proposé d'avoir une sédation profonde. Et ça a duré 48 heures, cette sédation profonde. J'ai pu lui, il m'a demandé même est-ce que je vais me réveiller. J'ai dit non, parce il y avait encore sa tête, là. C'était les os, là, mais c'est. Mais en tout cas, il était tellement souffrant, il était tellement malade. Mais c'était à l'époque où je crois que l'aide médicale à mourir en 2010, ça fait quand même 6 ans, et qu'elle n'était pas autant au point où ça peut l'être, j'imagine, aujourd'hui. Bon. Alors, Ça a été ce que ça a été, effectivement. Vous savez, quand on vit ça.
On va devoir arrêter ici. On arrive à la fin de cette partie de l'émission. Je vais rappeler quand même le livre s'appelle Louise Beaudoin, Entretien chez Boréal. Louise Beaudoin qui était avec nous. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'était un plaisir d'avoir de vos nouvelles, Mme Beaudoin. Prenez soin de vous.
Merci.
Et nous, après la pause, nous aurons la chronique littéraire. À tout de suite.
À 17h. Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Quoi que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien.
Allons voir une chanson de Feu Chatterton.
L'intégration des personnes handicapées sur le marché du travail stagne au Québec, selon une étude réalisée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. C'est dans Avenir des rivières, 13 juillet 2025, par Éric Patnaud. En 2025, près d'1 million de personnes en situation de handicap se butent à des obstacles persistants à l'embauche, à l'intégration et au maintien à l'emploi. Une donnée donc qui n'étonne guère, dynamique des handicapés de Granby et en région, donc des HGR. Depuis la pandémie, c'est zéro pin bar. On n'a aucune rétroaction d'employeurs qui nous ont interpellés pour nous demander ce qu'ils doivent faire, par exemple, comme travaux d'accessibilité. C'est au point mort et je pense que c'est pas mal partout pareil au Québec pour plusieurs raisons, a avoué la directrice de DHGR, Marie-Christine Hon. L'étude de la commission révèle que 93 personnes des personnes en situation de handicap interrogées ont connu des trajectoires professionnelles très difficiles, caractérisées par l'instabilité et la précarité. Autre statistique, 83 % des personnes consultées soutiennent avoir au moins une forme de harcèlement en lien avec leur handicap dans leur parcours professionnel. Au Québec, 21 % des personnes en âge de travailler présentent au moins une incapacité qui les limite dans leurs activités quotidiennes, selon la Commission. On fait allusion ici à une déficience auditive, intellectuelle, langagière, organique, visuelle ou à des troubles d'apprentissage, de santé mentale ou du spectre de l'autisme. Au sein de la fonction publique, la situation de l'employabilité chez les personnes handicapées n'est pas non plus à son mieux. En 1984, le gouvernement québécois s'était donné l'objectif d'avoir 2 % de personnes handicapées parmi son contingent de fonctionnaires. 4 décennies plus tard, cette cible n'est pas atteinte. On parle de 1,4 %. Depuis son lancement, la plateforme Scolaid accumule les ratés par Leila Lamnauer, qui est publiée le 7 juillet 2025 sur le site maudifrançais.ca. J'ai des amis qui trouveraient ça drôle. Lancé il y a 6 mois par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour faciliter le dépôt et le suivi de demandes de bourses et d'accompagnement d'élèves en situation de handicap, le portail enchaîne les bugs. Alors, sur le papier, l'idée était séduisante. En janvier, l'AEFE, donc on parle de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, déployait sa nouvelle plateforme numérique destinée à permettre le dépôt, le suivi et la gestion dématérialisée des demandes d'aide à la scolarité, donc bourse et accompagnement des élèves en situation de handicap pour tous les Français à l'étranger. Bug d'accès, lenteur, erreur dans le traitement des dossiers. Dès sa mise en ligne, le portail a commencé à dérailler, obligeant nombre d'utilisateurs à revenir au bon vieux duo stylo-papier. Interpellé sur le sujet par la sénatrice de l'ASFE, c'est l'Alliance Solidarité des Français à l'étranger, Sophie Briante-Guillermeau, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères reconnaît les difficultés liées à l'appropriation de cette nouvelle infrastructure. Mais elle rappelle qu'un accompagnement individuel et renforcé a été proposé aux postes consulaires et aux établissements scolaires afin de faciliter l'utilisation de la plateforme, corriger les anomalies rencontrées et garantir le bon déroulement des procédures. Des tutoriels sont également disponibles pour aiguiller les utilisateurs. Dans ce contexte, les versements d'aide à la scolarité, qu'il s'agisse des premiers acomptes non versés à l'automne ou des seconds prévus à partir de mars 2025 pour un total de 60 millions d'euros, ont été fortement perturbés par les difficultés liées au lancement de cette plateforme. L'enjeu est de taille. L'AEFE distribue chaque année 25 000 bourses à travers le monde pour un total de 110 millions d'euros. À ce stade, l'AEFE assure que Scolaid est particulièrement opérationnel et les principales fonctionnalités sont accessibles, mais des ajustements sont encore en cours. Une fois les correctifs implantés, l'objectif est d'atteindre une stabilisation complète de la plateforme d'ici la campagne 2025-2026.
S'il n'y avait plus rien, plus d'hier ni demain. Plus rien que nos pas, un derrière, un devant. Rien que toi et moi, sans l'après ni l'avant. Danse, balance, n'y pense même plus et danse. Balance, tout comme une délivrance. Balance, tout ce que tu gardes et danse. Balance, tout.
O sol tá raiando, você é bailarina. DJ dos amores, se joga na rima. O seu perfume é a sensação, ué. Movimentando a cabeça na ponta do pé. O sol tá raiando, oh, sua sonoridade, sabor vanilla.
Je passe pas de passé, je pas d'avenir. Je laisse ton présent.
Collaboration de Vanille et de Flavia Coelho qui chantait Balance.
Nous allons rejoindre Anne-Marie Aubin pour sa chronique littéraire. Salut Anne-Marie.
Bonjour.
Alors, on a des titres intéressants dont tu veux nous parler aujourd'hui. Je pense qu'on commence avec Jonathan Bécotte.
Oui, parce qu'aujourd'hui, j'aborde quatre titres pour différents publics qui abordent le deuil, puisque c'est journée de deuil au Québec aujourd'hui. Ben, je me suis dit que ça pouvait éveiller des souvenirs. Et puis, quand on est tout petit, ben, rien de tel que Jonathan Bécotte pour aborder des sujets difficiles. Je crois que vous le connaissez bien, Jean, oui. Jonathan Bécotte. On
oui.
en a parlé déjà l'année dernière.
Oui, nous c'est sommes amis.
Auteur... Oui. Oui, puis c'est un auteur qui est très doué puis qui sait parler aux jeunes sans jamais tomber dans la morale ni quoi que ce soit. Alors, dans ce titre qui s'appelle « Une année sans L, A-I-L-E », publié chez Dominique et compagnie. C'est un album de 32 pages. Il est question de L-E-L-L-E, qui est la maman de petits garçons qui vont voir mourir leur maman rapidement, comme ça, c'est pas préparé, on se prépare jamais de toute façon à ça, et ils vont vivre le deuil en famille. L'histoire est racontée par un des petits garçons au jeu qui, au fil des mois, raconte le quotidien difficile que cette petite famille diminuée maintenant va vivre. Et justement, le jeu de mots, c'est aussi comme s'il perdait ses ailes, sans ailes, elle et le bon. Alors donc, cette mort prématurée d'une jeune femme va les désemparer et le récit se déroule sur un an au fil des mois. Et c'est illustré d'une manière très suggestive par Cathy Fauché, qui jamais va dans le dramatique, qui pourrait pas convenir à ce groupe d'âge. Au contraire, elle va vers quelque chose qui est poétique et suggéré. Puis c'est bien écrit, comme Jonathan Bécotte sait le faire. Je vous donne une citation. « Le jour des funérailles, en nous. Dans le stationnement, nos proches s'accrochent à nos épaules, à nos cous, comme pour y laisser leur empreinte, pour nous aider à habiter l'absence. » Et un petit peu plus tard... au mois de janvier, il va dire « Pour me consoler quand la tristesse est trop grande, je me dis que tu es dans une autre pièce, derrière une porte, à quelques pas de nous. » Bref, il y a des mois faciles, des mois plus difficiles. C'est l'album parfait pour aborder la perte d'un être cher, que ce soit proche ou même d'un animal. Comment vivre le deuil? C'est plein d'amour et de tendresse. Donc, une année sans elle chez Dominique et compagnie.
Deuxième titre, donc, c'est « Déménager au ciel ».
Oui, de Mélodie Henri Bugeaud et Jean-Guy Forgette à la courte échelle. C'est un recueil de poésie qui s'est mérité plusieurs prix pour les adolescents, je dirais, les jeunes adolescents. Il est question de famille, de deuil et de tous les rituels qui entourent ça. Par exemple, le héros qui raconte l'histoire est le cousin de Loïc, jeune champion nageur qui va décéder d'une façon tragique. Et puis, ben là, il est évidemment bouleversé, il retient ses larmes. Et puis là, il nous raconte tout par petits fragments qui sont divisés en quatre grandes parties chronologiques qui sont finalement la préparation à cette cérémonie qui va avoir lieu. Je vous donne un exemple du texte. « Mon cousin Loïc était un nageur né. Le courant lui en voulait peut-être d'être aussi bon à le fendre en quatre à chaque traversée. » Cette fois-là a été la seule où Loïc n'a pas été le plus fort. Jamais on m'a dit que même les poissons pouvaient se noyer. Alors donc, c'est un très jeune homme qui faisait partie d'une équipe de nageurs. Et puis là, ben lui, il va aller au salon mortuaire. Et là, parfois c'est amusant, parfois il fait des clins d'œil, parfois c'est très poétique. Je vous cite un autre extrait. La préposée au chagrin me rejoint et m'explique que pour réduire les risques d'incendie, les urnes qui reposent ici sont en métal ou en bronze, des matériaux qui résistent au feu. Je trouve ça beau, empêcher ce qui est déjà en cendres de brûler une deuxième fois. Donc, un peu d'humour là-dedans. Et puis, ben, à la fin du texte, il nous dit finalement qu'il nous reste tous les souvenirs qu'on a vécu avec cette personne-là. C'est bien écrit et on y croit. C'est vraiment très beau. Donc, pour les gens de peut-être 11 ans et plus qui veulent aborder le deuil, déménager au ciel à la Cour d'échelle.
Et on continue avec un autre titre qui s'appelle « Morte rose » de Sarah Lalonde.
Ouais, c'est chez Le Meilleur Jeunesse. C'est un livre de 84 pages qui est comme un petit roman et puis qui aborde le deuil, les souvenirs, la mémoire. Et ça, c'est vraiment unique. Ça se compare à rien. On est ailleurs complètement. Rose, c'est la grand-mère de Zoé, qui est une ado, et la grand-mère est très excentrique, elle est vraiment spéciale. Et elle apprend qu'elle a un cancer. Alors, à partir de là, elle va se pratiquer à mourir avec sa petite-fille. Ils vont aller dans les funérailles d'inconnus, là, puis ben, elle va se coucher à un moment donné dans un cercueil, puis elle dit « Prends-moi une photo, je vais faire semblant d'être morte, puis comme ça, tu regarderas la photo, ça va te préparer. » Puis quand elle va dans les cérémonies de funérailles, elle prend des notes sur qu'est-ce que c'est qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, pour préparer sa propre funéraille. C'est vraiment poussé à l'extrême, c'est vraiment parfois peut-être un peu exagéré à la limite du crédible, mais il y a beaucoup de complicité entre la grand-mère et la jeune fille. Et puis, ben, ensemble, elles évitent la douleur, elles essaient de s'éviter le pire. Et puis, bon, ben, par exemple, elle dit, quand tu perds un animal, tu vas à la SPCA, chercher un autre, mais une grand-mère, il n'y en a pas dans les SPCA, qu'est-ce que je vais faire? Puis bon, à mesure qu'elle vide la maison, elle va découvrir des choses sur sa grand-mère. C'est sûr que ça ne plaira pas à tout le monde. Le langage est très près de celui des ados, parce que j'ai appris que les ados ne conjuguent pas leurs verbes. Alors, je donne une citation.
Ouais.
Je sens ma mère bouillir à la suite de l'annonce notariée. J'entends mon cerveau ruminer. Déjà que j'ai drop le secondaire, déjà que j'ai une sous-job d'assistante toiletteuse payée des peanuts alors que je vaux tellement plus. Alors, j'ai drop le secondaire,
ouais.
C'est la nouvelle façon de parler des jeunes. Alors, elle est très, très près de leur langage. Il y a sans doute beaucoup d'adolescents qui m'ont aimé ça. Mais il y a des bouts où, par exemple, quand elle met les cendres dans ses céréales, où j'ai trouvé que là, ça commençait à être un peu fort.
Oui, oui. Dire que c'est pas ma façon de manger des céréales, ça, c'est clair.
Voilà. Ça passe difficilement. Voilà.
Donc,
les derniers titres.
Oui, dans le titre qui s'appelle donc « Aller au corps » de Laurence Veilleux.
Oui, au Norrois, c'est de la poésie.
Mm-hmm.
Aller au corps, ça veut dire aller au salon mortuaire. Moi, quand j'étais jeune, j'ai entendu les vieux qui disaient « veiller au corps », ça veut dire l'avoir dans la maison. Mais aller au corps, c'est aller là pour prendre des nouvelles. Alors, je la cite. « Petite, j'accompagnais souvent mon père lorsqu'il allait au corps. Dans le sous-sol de la salle paroissiale de Saint-Benjamin, on s'assoyait sur les chaises placées devant le cercueil ouvert et on prenait des nouvelles du monde du village. » Alors, cet enfant-là est né en 94 et a grandi et puis est sorti de Saint-Benjamin. Puis elle vit maintenant à Rimouski et elle a publié plusieurs livres. Et puis, c'est son quatrième et puis elle a gagné des prix, elle a beaucoup de talent et on croirait qu'elle est née bien avant ça parce que son rapport avec la religion catholique, la mort, la vie quotidienne à Saint-Benjamin, ça ne m'apparaissait pas la vie d'une jeune fille née en 94. C'est surprenant. Donc, il y a question d'enfance, de famille, de secrets de famille, de peur, de superstition, de religion catholique et de la Beauce. Avec un nom veilleux comme ça, c'est beau ce qu'on, effectivement. Donc, j'ai remarqué que j'ai lu d'autres choses sur elle et j'ai vu qu'elle a une démarche finalement qui est très l'introspection de la vie, de ce qu'elle a connu. Et j'ai beaucoup aimé ce texte-là qui réunit en chapitres des petits textes poétiques d'une écriture féminine, intime, qui creuse dans les souvenirs de famille, entre autres de la première femme de son père, qu'elle n'a même pas connue, et de sa relation avec la mort. Son père est chasseur. Elle dit « Papa m'apprend à donner la mort, j'échoue. refuse la viande offerte et glisse dans une tristesse qui est devenue ma peau. Elle va dire plus tard, la famille est un nœud au ventre qui ne se défait pas. Mmh. Et là, quand elle est jeune, elle raconte qu'elle va dans un camp d'été, qui est super religieux, évidemment, où il y a des prières et tout ça, mais là, elle mange à sa faim, puis elle se dit que, bon, elle va profiter de ça, mais elle dit, je pisse dans mon sac de couchage. Fait qu'on voit que cet enfant-là n'est pas dans un épanouissement total et elle va rompre avec la religion catholique dans laquelle elle a grandi. Elle va dire, je n'ai plus un dimanche à perdre. Je ne retournerai pas me baigner au chalet du curé, ni jouer à l'ange aux réunions du cercle des fermières. Je lirai des livres vulgaires pendant la messe. Ô diable, les brebis de Jésus. Et plus tard, elle dit, je marcherai à l'envers pour découdre les mailles de mon baptême. Ah ben, c'est très fort.
Ouais.
C'est introspectif, c'est personnel. Il y a beaucoup de vécu là-dedans, on le sent. C'est bien écrit, c'est très touchant. Moi, j'avoue que c'est un coup de cœur. J'ai envie de lire tous ces autres recueils maintenant. C'est vraiment particulier. Ça ne ressemble pas à rien d'autre, ce rapport à la mort à travers ce que son père faisait, la vie difficile de sa mère qu'elle ne connaît pas puis qu'elle explique à partir des secrets de famille. Très, très beau recueil publié au Norrois avec une très belle page couverture réalisé par Véronique Lapierre, qui montre une espèce de forêt, comme avec des petites sorcières un peu partout. Et c'est ce qu'elle va choisir. Elle va prendre le côté des sorcières et des femmes différentes. C'est un peu féministe, en quelque sorte. Bref, j'ai adoré ce livre-là.
Bon, alors quatre livres qui parlent de deuil, et puis ben, tu le mentionnais en début de conversation, parce que c'est une journée de deuil aujourd'hui au Québec, ouais. Le décès de Serge Fiori. Alors, on va terminer avec, avant d'aller là, on va te dire au revoir et merci d'avoir été là, puis on va aller justement en musique pour souligner le départ de Serge Fiori.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bye-bye. Comme un sage. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça me rappelle un très beau temps de ma vie. Puis c'est incroyable, mais cette chanson-là, elle est encore actuelle. Hein? On voit pas qu'elle date de quand même, quoi, 80... Oh, mon Dieu, 40 ans, 50 ans? Oui, quand même, quand même. J'ai le temps d'une petite dernière information. Comment faire pour s'informer sainement? C'est un écran donc de Charlotte Groux, paru le 13 juillet sur ici radio-canada.ca. Des professionnels de la santé témoignent de la hausse des patients pour qui les mauvaises nouvelles, comme les perturbations écologiques, les guerres ou l'incertitude économique, sont une source d'anxiété. Si le phénomène n'est pas nouveau, on en a davantage connaissance ces dernières années. Auparavant, on choisissait lorsqu'on était exposé aux nouvelles ou pas, mais maintenant, avec le téléphone, à moins qu'on désactive les alertes, ce que je fais, on ne choisit plus. Les nouvelles arrivent même lorsqu'on n'en veut pas, souligne Frédéric Grouzet, professeur en psychologie de l'Université de Victoria. La psychologue Marie-Hélène Pelletier ajoute que puisqu'il y a désormais plus d'activités en ligne avec les réseaux sociaux et l'intégration d'intelligence artificielle, la probabilité de tomber sur une mauvaise nouvelle sans s'y préparer est de plus en plus grande. Alors, on donne certains trucs. Je vais sauter un petit peu à la fin parce que je me rends compte qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, on suggère de varier les sources d'informations, de aussi contrôler quand on reçoit les nouvelles. On peut parfois décider carrément, comme moi je le fais, de désactiver les notifications. Moi, il y a certains temps de la journée que je n'en reçois pas, surtout quand je suis en onde. Et puis, on mentionne aussi que de ne pas lire ces trucs-là avant de se coucher. Vraiment, oui, c'est un peu comme de regarder les nouvelles à la télé avant de se coucher, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Je vais d'abord donc remercier toute l'équipe qui travaille avec moi. Merci beaucoup, Mathieu Tessier. Merci aussi à Hélène Denis qui, même si elle est en vacances présentement, a contribué à préparer cette émission pour cette semaine, pour me donner un petit coup de pouce pour repartir les prochaines semaines. Alors, merci beaucoup. Nous, on va être de retour demain, 9h30, même heure, toujours à l'émission Au quotidien à Canal M, avec, comme toujours, du contenu intéressant et divertissant. À demain!